Le président iranien a condamné le double attentat terroriste survenu au Pakistan, qui a fait 52 morts et 80 blessés. Des unités de l'armée syrienne ont abattu 3 drones appartenant au réseau terroriste dans les banlieues de Latakia et d'Alep. Et au Burkina Faso, il n'y aura pas d'élection tant que le pays ne sera pas suffisamment sûr pour que tout le monde puisse voter, a fait savoir le chef de la junte, Ibrahim Traoré. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a condamné les attentats terroristes contre 2 mosquées au Pakistan, affirmant que Téhéran était fermement prêt à lutter contre l'extrémisme sous toutes ses formes. Au moins 57 personnes ont été tuées, plus de 60 blessées, vendredi 29 septembre, dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan. Les attentats à la bombe ont eu lieu près d'une mosquée de la ville de Mastung, alors que des personnes se rassemblaient pour célébrer l'anniversaire de la bienheureuse naissance du prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de ces explosions. Quelques heures seulement après l'explosion sanglante au Baloutchistan pakistanais, 2 autres attentats suicides ont fait au moins 3 morts dans le nord-ouest de ce pays. Selon l'IRNA citant les médias pakistanais, un commissariat et une mosquée de la ville de Angu, située dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du Pakistan, ont été visés par des terroristes. Dans ces 2 actes de terrorisme survenus lors de la prière du vendredi dans une mosquée proche d'un commissariat de police pakistanais, 3 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres civils ont été blessés. Dans un message adressé vendredi au président pakistanais Arif Alvi, M. Raisi a déclaré que cette action aveugle montrait une fois de plus que les terroristes, qui n'ont aucune compréhension des enseignements miséricordieux de l'islam, n'ont d'autre but que de semer la discorde entre les musulmans. Toutefois, ils ne parviendront jamais à atteindre leurs objectifs illégitimes et inhumains. Le président iranien a condamné cette initiative terroriste anti-religieuse et inhumaine et a exprimé sa sympathie et ses condoléances à son homologue pakistanais et à la nation pakistanaise. La République islamique d'Iran est résolument prête à coopérer avec le Pakistan dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme, a déclaré M. Raisi. Il a exhorté la communauté internationale, en particulier les pays musulmans, à réagir sérieusement à cet acte criminel et à empêcher la répétition d'événements aussi amers. Le président iranien a exprimé l'espoir que les auteurs de cet acte soient identifiés et punis dès que possible. Le ministère syrien de la Défense a annoncé vendredi avoir abattu 3 drones des terroristes dans les campagnes d'Alep et de Latakia. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu 3 drones appartenant au réseau terroriste dans les banlieues de Latakia et Alep. Elles ont également visé leur QG à l'artillerie, tuant plusieurs de leurs éléments et détruisant un véhicule tout-terrain avec les terroristes à bord. Le ministère de la Défense a déclaré sur sa page Facebook « Les réseaux terroristes armés continuent de viser les civils et les positions de l'armée dans les banlieues d'Alep, de Latakia et d'Idlib. Le dernier incident était une attaque avec plusieurs drones que nos forces ont réussi à abattre. 2 dans la banlieue nord de Latakia et 1 dans la banlieue ouest d'Alep. » En riposte à ces attaques, des unités de nos forces armées ont effectué des tirs précis avec de l'artillerie sur les quartiers généraux de ces réseaux dans les zones mentionnées, tuant et blessant plusieurs terroristes, dont Abu Marwan Azou. De plus, nos forces ont réussi à détruire un véhicule tout-terrain avec les terroristes à bord dans les environs de la banlieue ouest d'Alep. Encore précisé le ministère syrien de la Défense. Les forces du régime sioniste ont tué un membre du mouvement de résistance palestinien Hamas lors d'une embuscade au centre de la Cisjordanie occupée. L'incident a eu lieu vendredi 29 septembre près de la colonie illégale de Psagot, située à l'est de la ville d'Arbira. Le ministère palestinien de la Santé, basé en Cisjordanie, a identifié la victime comme étant Mohammad Jibril Roumana, affirmant qu'il avait succombé à de graves blessures à l'abdomen. Le Hamas, dont le siège est dans le territoire palestinien voisin de la bande de Gaza, a publié un communiqué décrivant Roumana comme un martyr héroïque, mort alors qu'il défendait la liberté de son peuple. Un autre Palestinien a été également blessé lors de l'incident, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. La violence menée par les forces du régime sioniste et ses colons illégaux a coûté la vie à au moins 242 Palestiniens depuis le début de 2023. Vendredi également, des dizaines de Palestiniens ont été blessés lorsque les forces israéliennes ont utilisé des gaz lacrymogènes et tiré des coups de feu pour disperser les participants au rassemblement hebdomadaire anti-implantation dans le nord de la Cisjordanie. Selon les médias palestiniens, les rassemblements ont eu lieu dans le village de Beit Dajan et dans la ville de Kafratoum, située près de la ville de Naplouse. Ahmad Jibril, chef du département d'urgence et d'ambulance du Croissant Rouge palestinien à Naplouse, a déclaré que les troupes israéliennes avaient attaqué les manifestants à Beit Dajan avec des balles d'acier recouvertes d'une pellicule de caoutchouc, des bombes lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Le gouvernement arménien a annoncé ce samedi 30 septembre qu'ils sont déjà plus de 100 000 à avoir quitté le Haut-Karabakh. Alors que certaines dépêches font état du déploiement des forces militaires de la République d'Azerbaïdjan au centre du Haut-Karabakh, le nombre de réfugiés dans cette région ne cesse d'augmenter. L'Azerbaïdjan a fait part ce vendredi de son intention d'autoriser un groupe d'experts des Nations Unies à visiter la région du Haut-Karabakh dans quelques jours. Cela intervient alors que le nombre d'Arméniens de souche ayant quitté la région a atteint plus de 97 000 personnes. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan s'apprête à renvoyer 5 500 résidents déplacés au Karabakh cette année. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré qu'il existait une sorte de liste d'attente pour ceux qui envisagent de retourner dans leur pays. Le nombre de résidents azerbaïdjanais retournant chez eux au Karabakh atteindra 5 500 d'ici la fin 2023, a déclaré Aliyev. À ce jour, 2 300 personnes qui ont dû déménager sont déjà rentrées et d'ici la fin de cette année, elles seront 5 500. A-t-il affirmé lors d'un forum d'urbanisme organisé dans la ville de Zangilan. Selon les données officielles, environ 1 million d'Azerbaïdjanais ont dû déménager à cause du conflit du Karabakh. La France est confrontée à une crise des punaises de lit qui a déclenché une querelle politique. Le fléau des insectes continue de se propager dans la capitale Paris, un an avant les Jeux Olympiques. Une vague de panique et de dégoût a déferlé à travers le pays alors que les utilisateurs des réseaux sociaux ont publié des images d'insectes rampant dans les trains à grande vitesse et le métro parisien. Parallèlement, une série d'articles en ligne sur les punaises de lit dans les cinémas et même à l'aéroport Charles de Gaulle ont été publiés par les voyageurs. Le ministre français des Transports, Clément Beaune, a déclaré qu'il convoquerait les opérateurs de transport public la semaine prochaine pour les informer des contre-mesures et de la manière de faire davantage pour la protection des voyageurs. Des représentants de la mairie de Paris ont écrit au Premier ministre Elisabeth Borne pour réclamer la création d'un groupe de travail national dédié à la lutte contre ce qu'ils appellent un fléau des insectes. L'adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a déclaré à la télévision française « Personne n'est à l'abri. Il y a des facteurs de risque, mais vous pouvez attraper des punaises de lit n'importe où et les ramener chez vous. » Il a déclaré que les autorités parisiennes avaient reçu une augmentation des appels à l'aide et que les entreprises privées avaient reçu un niveau inhabituellement élevé de demandes de fumigation ces dernières semaines. Le gouvernement doit coordonner l'action à tous les niveaux de l'État, aussi rapidement et efficacement que possible. Mathilde Panot, présidente du parti de gauche La France Insoumise, au Parlement, a déclaré que les punaises de lit ont causé l'enfer à des millions de familles dans ce pays et que le gouvernement doit agir. Les punaises de lit qui avaient largement disparu de la vie quotidienne dans les années 1950 ont réapparu ces dernières décennies et sont devenues de plus en plus résistantes aux traitements chimiques. Le chef de la junte burkinabé Ibrahim Traoré a déclaré vendredi qu'il n'y aura pas d'élection tant que le pays ne sera pas suffisamment sûr pour que tout le monde puisse voter. Le gouvernement militaire qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État l'année dernière s'est engagé à organiser un vote pour restaurer le régime civil en 2024. Les élections au Burkina Faso ne sont pas une priorité, contrairement à la sécurité dans ce pays miné par les violences terroristes, a affirmé le capitaine Ibrahim Traoré à la télévision nationale. Le capitaine a également annoncé une modification partielle de la Constitution, un texte qui reflète, selon lui, la vie d'une poignée de personnes éclairées, au détriment d'une masse populaire. Les élections, ce n'est pas une priorité. Ça, je vous le dis clairement, c'est la sécurité qui est la priorité. Dans ce pays miné par les violences terroristes, a répondu Ibrahim Traoré au journaliste qui l'a interviewé vendredi soir, 29 septembre, à la radio-télévision burkinabé RTB. Les médias évoquaient des élections théoriquement prévues en juillet 2024. Si les élections ne constituent pas une priorité, Ibrahim Traoré a néanmoins ajouté que notre pari tient toujours pour organiser un scrutin, sans préciser de date. À la tête du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022, il a rappelé avoir déclaré le premier jour de sa prise de pouvoir vouloir faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Aux États-Unis, la grève des ouvriers de l'automobile s'étend. Le syndicat UAW a appelé vendredi 7 000 de ses membres à cesser le travail, portant à 25 000 environ le nombre de salariés à l'arrêt chez les trois grands constructeurs automobiles américains, alors que le mouvement dure maintenant depuis 2 semaines. Les dernières grèves ont rassemblé au total quelques 25 000 travailleurs dans 21 États, soit environ 17 % des membres du syndicat américain UAW. L'extension de la grève a pris effet à 16 h GMT et porte sur 2 sites, l'un appartenant à Ford à Chicago et l'autre propriété de GM à Lansing, Michigan, a indiqué le président de l'UAW, Sean Fain. Il s'agit de la toute première grève conjointe des principaux constructeurs automobiles Ford, GM et le producteur de Chrysler, Stellantis, dans le but d'obtenir des salaires plus élevés et d'autres améliorations. Il a mentionné un mécanisme d'ajustement des salaires au coût de la vie ainsi que le droit de faire grève en cas d'annonce de fermeture de site et de délocalisation par le constructeur. Sean Fain a maintenu sa demande d'augmentation de 40 % des salaires sur une période de 4 ans, une position soutenue cette semaine par le président Joe Biden. Les entreprises ont proposé des augmentations de salaire de l'ordre de 20 %. Fain a également négocié pour représenter les travailleurs des usines de batteries prévues par Ford, auxquelles le géant de l'automobile a jusqu'à présent résisté. L'UAW a utilisé la grève ciblée qu'a débuté le 15 septembre comme monnaie d'échange, augmentant la pression sur les trois constructeurs automobiles dans le but de parvenir à un accord. Le président de Ford, Jim Farley, qui est resté relativement silencieux jusqu'à présent, s'est prononcé vendredi contre les tactiques de négociation de Fain. Ford a récemment suspendu la construction de l'une de ses usines et a averti qu'il pourrait devoir revoir à la baisse ses ambitions pour le projet. Stellantis a déclaré dans un communiqué qu'elle travaillait intensément avec l'UAW pour trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent le plus nos employés tout en garantissant que l'entreprise puisse rester compétitive. La grève a accru l'importance du statut d'État Sewing du Michigan lors de l'élection présidentielle de 2024. Plus tôt cette semaine, Joe Biden est devenu le premier président américain en exercice à se tenir sur une ligne de piquetage, rejoignant les membres de l'UAW dans le Michigan dans un discours audacieux en faveur du vote des cols bleus contre son probable rival électoral Donald Trump. Le parti républicain de Trump est généralement hostile au syndicat, mais parvient souvent à recueillir un nombre important de voix de la classe ouvrière. Trump s'est exprimé dans une usine automobile non syndiquée de la banlieue de Detroit, affirmant qu'il souhaitait un avenir qui protège la main-d'œuvre américaine, pas la main-d'œuvre étrangère.